Bonjour, le secrétaire général va vous donner un aperçu de la réunion des ministres des Affaires étrangères qui débute demain et ensuite il sera à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour, cette semaine, les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN vont continuer à évoquer un certain nombre de questions très diverses et notamment sur la façon dont l'OTAN peut continuer à s'adapter et cela fera partie des préparation pour le prochain sommet ici à Bruxelles en juillet 2018. Nous commencerons demain avec une réunion sur la coopération OTAN-UE et sur la défense européenne. Nous serons rejoints par la haute représentante Mogherini et les ministres de Finlande et de Suède. En marge du sommet de l'OTAN à Varsovie en juillet dernier, les présidents Juncker, Tusk et moi-même ont signé une déclaration conjointe sur le renforcement de la coopération entre l'OTAN et l'UE. Cela s'est concrétisé par un paquet de 42 mesures qui a amené notre coopération à un niveau sans précédent. Nous n'avons jamais travaillé de façon aussi étroite et de façon si systématique dans tant de domaines différents. Par exemple, nous avons augmenté nos efforts pour lutter contre les cyberattaques. Nous échangeons les alertes concernant les attaques et les logiciels malveillants en temps réel. La semaine dernière, l'Union européenne a participé à l'exercice de cybercoalition de l'OTAN, l'un des exercices les plus importants au monde. Nous avons également renforcé notre coopération sur les menaces hybrides. Frédérica et moi-même avons récemment inauguré le centre d'excellence hybride à Helsinki. Et en mer, notre coopération s'est également renforcée via notre opération Sea Guardian qui soutient l'opération européenne Sophia pour mener à terme son travail important. Lors de la ministérielle de cette semaine, nous visons à aller plus loin avec un nouveau paquet de mesures. Aujourd'hui, les négociations sur ce paquet se poursuivent, mais j'espère que nous allons pouvoir parvenir à avoir un accord pour faire plus avec l'Union européenne et dans davantage de domaines. Notre objectif est de faire en sorte que la mobilité militaire soit un nouvel axe majeur de notre coopération. Dans un environnement de sécurité imprévisible, nos troupes et notre matériel doivent pouvoir se déplacer rapidement dès que cela sera nécessaire. Cela est vital pour notre sécurité. L'OTAN doit avoir le soutien des gouvernements nationaux et de l'Union européenne pour y parvenir. Nous avons également l'intention de renforcer notre coopération pour lutter contre les menaces terroristes. C'est une préoccupation majeure pour nos opinions publiques, à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Et nous allons faire davantage pour sensibiliser sur le rôle des femmes dans nos organisations de paix, de sécurité et dans nos opérations. Plus tard, mardi, nous évoquerons les défis mondiaux, y compris la Corée du Nord. Il est important de se rappeler que les événements sur la péninsule coréenne ont façonné de façon profonde l'OTAN. Le début de la guerre en Corée en 1950 a déclenché une réorganisation de l'Alliance. C'est à ce moment-là que l'OTAN est devenue une organisation, d'où le haut de l'OTAN, avec la création d'un QG militaire permanent et la création des positions du secrétaire général et du SACEUR. Aujourd'hui, notre sécurité est également liée aux événements en Extrême-Orient. Le lancement de la semaine dernière d'un missile balistique intercontinental a démontré que les pays alliés peuvent être à portée d'une frappe provenant de Corée du Nord. Nos partenaires dans la région sont menacés et les actions de la Corée du Nord fragilisent également les régimes mondiaux de non-prolifération, de maîtrise des armements et de désarmement. Donc, l'ensemble de la planète doit appliquer une pression maximale sur la Corée du Nord et ce, afin de parvenir à une solution pacifique. Les alliés ont été très clairs et cohérents dans leur condamnation et appellent à une mise en œuvre totale des sanctions internationales. L'OTAN a été confrontée à des menaces de missiles balistiques depuis des décennies. Notre réponse a toujours été une dissuasion crédible. Nous avons les capacités et la détermination pour prévenir toute attaque. Notre force militaire est ce qui rend justement les efforts diplomatiques possibles. Mercredi, nous allons évoquer le rôle de l'OTAN dans la projection de la stabilité et la lutte contre le terrorisme. Nous renforçons nos troupes de 3000 personnes pour les missions de formation en Afghanistan et nous travaillons avec nos partenaires tels que la Jordanie et la Tunisie pour renforcer leur défense. L'OTAN contribue à la coalition international contre l'État islamique avec des vols de surveillance d'AWACS et en formant des forces irakiennes. Mais notre travail ne sera pas achevé même lorsque l'État islamique ne contrôlera plus de territoire. Les ministres vont évoquer comment l'OTAN doit faire évoluer son rôle. Alors que la coalition mondiale évolue des opérations de combat aux efforts de stabilisation. Mercredi, nous allons avoir une réunion de la commission OTAN-Géorgie. Géorgie est l'un des alliés les plus proches de l'Alliance. Et à travers le paquet substantiel OTAN-Géorgie, nous travaillons sur un certain nombre de thèmes qui vont de la cyberdéfense à la planification opérationnel à travers notre centre interarmé de formation et d'évaluation et aussi à travers l'école pour le renforcement des institutions de défense financées par l'OTAN qui a déjà formé environ 1000 élèves. Nous allons évoquer les domaines où nous pouvons coopérer de façon plus étroite, tels que la sécurité dans la mer Noire. Nous terminerons nos réunions par une rencontre portant sur la politique de porte ouverte de l'OTAN, comme la récente accession de Monténégro l'a démontré. L'adhésion à l'Alliance est possible pour des pays qui font de vrais progrès dans les réformes et la modernisation. Donc nous évoquerons comment le mieux soutenir ces pays qui aspirent à rejoindre notre communauté fondée sur des valeurs partagées et de la sécurité partagée. Nous sommes qu'à 7 mois du prochain sommet de l'OTAN ici à Bruxelles. Demain, j'aurai le plaisir de dévoiler le logo du prochain sommet avec le Premier ministre belge, Charles Michel. Et sur ce, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Nous allons commencer par le Washington Post. Merci. Merkel Birnbaum du Washington Post. Monsieur le secrétaire général, il y a eu certains articles récemment indiquant que le secrétaire d'État, M. Tillerson, allait bientôt être remplacé. Est-ce que cela amoindrit la valeur des assurances, des garanties qu'il pourrait donner ici cette semaine? Et puis, de manière plus générale, j'aurais voulu savoir comment vous ajustez l'OTAN, si je puis dire, par rapport à une situation où, aux États-Unis, il y a des troubles politiques permanents avec l'administration Trump. Réponse. Eh bien, je suis très heureux de rencontrer le secrétaire M. Tillerson demain. Les États-Unis sont notre principal allié, donc ce qui se passe aux États-Unis est toujours très important pour nous. Et donc, je serai très heureux de pouvoir rencontrer le secrétaire Tillerson pour parler d'un grand nombre de sujets, le terrorisme, le rôle de l'OTAN en matière de lutte contre le terrorisme, l'Afghanistan, la coopération OTAN-UE. On peut également penser à la politique de la porte ouverte de l'OTAN. D'autre part, je salue le fort engagement personnel du secrétaire Tillerson par rapport aux liens transatlantiques, par rapport à l'OTAN. Ce sont des thèmes sur lesquels il s'est exprimé très clairement, pas plus tard que la semaine dernière. Il a parlé de ce soutien sans faille de la part des États-Unis auprès de l'OTAN et auprès de ce lien transatlantique. Et cet engagement, il ne se traduit pas qu'en mots de la part de Rex Tillerson et du gouvernement américain, c'est quelque chose qui se traduit également par des mesures, des faits. Aujourd'hui, les États-Unis augmentent leur présence militaire en Europe. Il y a plus de troupes, plus de matériel, plus d'éléments, de manière générale, qui sont mis à disposition. Et le financement de l'initiative de dissuasion en Europe a lui aussi été renforcé de manière extrêmement sensible. Ainsi, je suis donc très heureux de pouvoir compter sur la présence du secrétaire Tillerson pour ces réunions. Cela permettra de nouveau de renforcer le lien transatlantique, de rappeler que l'OTAN est le cadre pour la coopération transatlantique. NPR, vous n'avez pas vraiment répondu à la question de Michael. Est-ce que cela nuit à la qualité de la réunion qu'il y ait ces rumeurs qui circulent? Je crois que la question portait plutôt là-dessus que sur la coopération OTAN-UE. Et puis, est-ce que vous ne pensez pas que les alliés vont être un petit peu réticents à l'heure de croire que les États-Unis peuvent effectivement confirmer l'une ou l'autre de leur politique? Réponse. Eh bien, je crois qu'on a pu voir que l'OTAN et les ministres de l'OTAN sont capables de mettre l'accent et de rester concentrés sur le travail que nous avons à faire, et ce, en dépit des spéculations et des rumeurs des uns et des autres. Je pense qu'on va continuer à voir cela. En effet, on a un travail très important à réaliser. On doit voir comment nous pouvons répondre à un environnement sécuritaire plus dangereux, plus exigeant. On va devoir voir comment on peut veiller à ce que le lien transatlantique puisse rester fort en ces temps difficiles. Cela est particulièrement vrai parce qu'il y a une plus grande incertitude, une plus grande imprévisibilité, il y a plus de menaces. C'est justement dans ces moments-là qu'on a besoin d'institutions fortes telles que l'OTAN. Et par rapport à cela, je suis persuadé que tous les ministres, y compris le secrétaire d'État, M. Tillerson, vont rester concentrés sur le travail qu'il y a à faire. Et c'est pour cela que je parlais de l'importance du renforcement de la coopération OTAN-UE, et ce, en dépit des rumeurs qui peuvent circuler. On va donner la parole au monsieur premier rang. Jordan Times. Avec l'ouverture du hub, ce qui s'est passé pour Daesh et ce qu'on voit comme évolution en Afrique du Nord, quel est le programme, qu'est-ce qui est prévu s'agissant de la coopération avec les partenaires du Sud? Est-ce que c'est quelque chose qui sera traité lors de cette réunion? Réponse, eh bien effectivement, c'est quelque chose que l'on va évoquer dans la mesure où on va parler de la projection de la stabilité et de la lutte contre le terrorisme. Et bien entendu, la coopération avec un pays comme la Jordanie est quelque chose auquel nous attachons beaucoup d'importance. La Jordanie est un partenaire important qui fournit des infrastructures pour certains de nos programmes d'entraînement. On a formé des officiers irakiens en Jordanie au centre de formation du roi Abdullah. D'autre part, on aide la Jordanie à moderniser ses forces armées. On travaille donc dans bon nombre de domaines, y compris le rôle, la place des femmes dans les forces armées de ce pays. Nous saluons également le fait que la Jordanie ait joué un rôle important dans les progrès enregistrés en matière de lutte contre Daesh. Donc c'est un partenariat fort auquel nous accordons beaucoup d'importance. Je salue également l'engagement du roi par rapport à ce partenariat avec l'OTAN. Le roi Abdullah a eu plusieurs fois l'occasion de venir à l'OTAN. Il s'est entretenu avec le Conseil de l'Atlantique Nord et j'ai moi-même eu l'occasion de me rendre en Jordanie récemment et on continue de renforcer notre partenariat.
Merci, presse tunisienne. Vous venez de mentionner la Tunisie et j'aimerais savoir si vous pouvez donner davantage de détails concernant la coopération entre la Tunisie et l'OTAN. Et aussi, nous venons d'une région qui est très préoccupée par la coopération et nous aimerions en savoir davantage sur le rôle de l'OTAN dans la Méditerranée et notamment en Libye. Est-ce que vous avez une stratégie claire pour lutter contre le terrorisme dans la région? En ce qui concerne la Libye, nous travaillons avec le gouvernement d'entente nationale, le Premier ministre Sarraj, pour savoir comment nous pouvons l'aider à renforcer les institutions de défense dans son pays. J'ai rencontré le Premier ministre Sarraj il y a 2 mois environ et nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nos experts doivent travailler ensemble. Ils ont déjà eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises pour voir comment nous pouvons fournir une assistance pratique à la Libye pour l'aider à renforcer ses institutions de défense. L'OTAN soutient également les initiatives de l'Union européenne pour essayer de trouver une solution pacifique au conflit. Et nous espérons que le gouvernement de M. Sarraj pourra bientôt stabiliser le pays. Nous sommes là pour aider le gouvernement à y parvenir. Quant à la Tunisie est un partenaire de l'OTAN. Nous travaillons avec la Tunisie ainsi que plusieurs alliés de l'OTAN pour essayer de renforcer leurs capacités, pour aussi dans le cadre des coopérations des forces spéciales et de partage de renseignements. Nous essayons de voir comment renforcer ces différents éléments de coopération, mais en ce qui concerne le renseignement et les forces spéciales, et cela aide la Tunisie à renforcer sa résilience dans la lutte contre le terrorisme, et cela est important à la fois pour la Tunisie et pour les alliés de l'OTAN. Alors, Geo Television News, Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, le ministre Matisse a dit au Pakistan émis un certain nombre de menaces en incitant le pays à lutter davantage contre les réseaux Al-Qaïda, en dépit du fait que le Pakistan a déjà un accord avec les États-Unis sur le fait que les États-Unis puissent frapper les sanctuaires des terroristes sur le territoire pakistanais, mais la situation ne paraît pas se régler sur le terrain, car les Pakistanais et les Américains alimentent la controverse sur cette question. Où en sommes-nous sur cette question, à savoir sur le fait de quelle est justement l'étendue de la coopération du Pakistan, dans la mesure où la situation ne s'améliore pas sur le terrain? M. Tillerson était récemment au Pakistan, M. Matisse est actuellement. Donc, qu'en pensez-vous dans le cadre justement des menaces croissantes des États-Unis? Je me félicite du fait que le secrétaire Matisse s'est récemment rendu au Pakistan. Je pense qu'il est important d'avoir un dialogue étroit avec les pays de la région, car nous avons besoin de leur soutien pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre les réseaux Al-Qaïda et aider à stabiliser l'Afghanistan. Et j'ai aussi eu le plaisir de voyager avec le secrétaire Matisse lorsqu'il s'est rendu en Inde et au Pakistan récemment. Et l'OTAN et les États-Unis ont décidé de renforcer notre présence en Afghanistan avec plus de formateurs et plus de troupes dans le cadre de notre mission de formation et d'assistance. Et nous devons également avoir un dialogue avec les pays voisins, y compris le Pakistan, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sanctuaire pour les terroristes internationaux en dehors de l'Afghanistan et qui soutiennent les insurgés à l'intérieur du pays.
On va donner la parole à AP, Associated Press. Une question au sujet de la Corée du Nord. Vous avez dit que l'OTAN a fait face à des menaces de missiles balistiques, et ce depuis longtemps déjà, qu'on a des capacités. Je sais que vous vous êtes rendu dans la région. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret que vous pourriez faire par rapport à la menace coréenne? Est-ce que vous pouvez utiliser les moyens que vous avez à votre disposition, ou est-ce qu'on reste plutôt dans le domaine du soutien et du discours politique? Réponse. Eh bien, le but de la dissuasion, c'est de faire passer un message. Un message qui est tellement clair et tellement fort qu'on n'a pas besoin d'avoir recours à la force militaire. Donc le but même, l'objectif de la dissuasion qui repose sur cette force et cette détermination militaire, ce n'est évidemment pas de provoquer un conflit, mais bien au contraire de prévenir les conflits. C'est ainsi que l'OTAN a empêché les conflits pendant des décennies. Et c'est ainsi que l'OTAN a fait face à des menaces balistiques ou nucléaires pendant des décennies. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur le besoin de s'adapter, renforcer et communiquer clairement ce qu'il en est par rapport à l'OTAN. L'OTAN est forte, l'OTAN est unie et l'OTAN est en mesure de répondre à toute attaque, y compris une menace de nature balistique ou nucléaire. C'est pour éviter que cela se produise. C'est la raison même de la dissuasion. La dissuasion, ça a été notre principale réponse pendant des décennies, et ça continue d'être le cas s'agissant, par exemple, des menaces en provenance de Corée du Nord. Alors, il est vrai que je me suis rendu dans la région le mois dernier, c'était en octobre en fait, et ça a été une visite utile parce que nous avons des partenaires très proches avec la Corée du Sud et le Japon, Et eux saluent la pression qui est exercée et appuyée par l'OTAN et les alliés. Le fait que l'ONU ait pu renforcer des sanctions économiques était très important également. Cela vaut en particulier pour des sanctions s'agissant de l'exportation de pétrole et de produits raffinés. On a pu voir que le taux de mise en œuvre des sanctions a augmenté. Je crois qu'il faut se souvenir que la Russie et la Chine ont un rôle et donc une responsabilité particulièrement importante. En effet, ils jouissent d'un statut de membre permanent du Conseil de sécurité, mais ce sont également des voisins de la Corée du Nord. Donc on va continuer de mettre la pression sur la Corée du Nord, on va continuer d'avoir une dissuasion crédible et puis on va travailler avec nos partenaires dans la région. Le but étant évidemment d'arriver à une solution négociée pacifique, car une guerre dans la région serait désastreuse. Ceci aurait des répercussions majeures au niveau global. Ça ne concernerait pas que la région, mais le monde entier. Le soir, je vous remercie, Philippe Régnier, du journal Le Soir. S'agissant de la Corée du Nord, il y a des hauts représentants américains, y compris le général McMaster, qui ont indiqué qu'une guerre préventive contre la Corée du Nord devenait de plus en plus vraisemblable. Est-ce que c'est une évaluation que vous partagez? Ou alors, est-ce qu'il s'agit là aussi d'un message à des fins de dissuasion? Réponse. Ce que l'on a pu voir, c'est que les tensions augmentent. Ceci est lié au comportement irresponsable de la Corée du Nord. Ils testent des armes nucléaires, ils testent de nouveaux missiles et on voit que la portée de ces missiles fait qu'il serait possible d'atteindre l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est là la raison pour laququelle on doit exercer une pression maximale à l'égard des Nord-Coréens. Il faut passer par des moyens politiques, des moyens diplomatiques, mais il faut également qu'il y ait la pleine, totale et transparente mise en œuvre des sanctions économiques contre ce pays, parce qu'il faut empêcher le conflit armé. Cela étant, il faut la dissuasion. Il faut la dissuasion parce que c'est la meilleure manière d'empêcher qu'il y ait une attaque armée contre nous. Les États-Unis et l'OTAN disposent bien entendu du droit de se défendre, et les États-Unis disposent du droit de se défendre et de défendre l'ensemble des alliés. Ceci a été indiqué clairement pour envoyer ce message de dissuasion.
Question. J'aimerais poser une question sur l'Iran. Il y a eu des articles faisant état du fait qu'un haut responsable iranien a menacé d'augmenter la portée des missiles iraniens pour qu'ils puissent atteindre l'Europe. Comment réagissez-vous à cette menace? Vu le contexte et les difficultés concernant l'application de l'accord sur le nucléaire iranien. La réponse, je crois qu'il faut faire une vraie distinction entre les armes nucléaires et les capacités de missiles balistiques. L'accord sur le nucléaire iranien concerne la capacité de l'Iran à développer les armes nucléaires et l'OTAN a soutenu cet accord lorsqu'il a été conclu. Et notre priorité maintenant est que cet accord soit pleinement mis en œuvre, car cela aura un effet direct sur la sécurité des alliés de l'OTAN. Parallèlement, nous avons pu observer que l'Iran continue de développer ses capacités balistiques. Continue à tester des nouveaux missiles balistiques et cela est une préoccupation pour l'ensemble des alliés de l'OTAN, surtout les alliés en Europe, car de plus en plus de ces alliés sont potentiellement à la portée de ces missiles iraniens. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est important que l'OTAN puisse s'adapter pour pouvoir répondre à ce type de menace. L'OTAN est actuellement en train de renforcer ses capacités de défense antimissile. J'ai participé à l'inauguration de notre site de défense antimissile balistique en Roumanie l'année dernière et nous sommes en train de construire un nouveau site en Pologne et nous avons également des bâtiments de surface déployés avec des intercepteurs et des radars avancés qui renforcent notre défense contre les missiles balistiques provenant en dehors de la zone euro-atlantique, y compris au sud de l'Alliance. Cinquième rang, Europa Press, l'agence de presse espagnole, Europa Press. Deux questions concernant la lutte contre le terrorisme avec l'Union européenne. Est-ce que ce sera limité à des échanges d'informations sur le renseignement ou est-ce qu'il y a un espace pour une coopération plus opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme? Et deuxièmement, concernant la Corée du Nord et la menace provenant de ce pays, est-ce que l'OTAN et les alliés ont décidé que nous devons renforcer des changements au système de défense antimissile balistique de l'OTAN? Est-ce que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade? Vous dites que nous renforçons ce système, mais cela a été envisagé il y a longtemps, avant que ces menaces se renforcent de la Corée du Nord et de l'Iran aussi. Est-ce que les alliés de l'OTAN débattent du fait de savoir s'il faut renforcer cette posture ou pas? Réponse. Alors d'abord, sur la coopération avec l'Union européenne, un des domaines sur lesquels nous travaillons pour voir comment renforcer notre coopération porte justement sur la lutte contre le terrorisme. Comme je vous l'ai dit, les négociations sont toujours en cours, donc je ne veux pas dévoiler trop de détails sur les différentes mesures envisagées. Et j'espère que nous aurons un accord à ce sujet lors de nos réunions demain et après-demain au niveau ministériel. Mais bien entendu, regardons aussi d'autres domaines où nous pouvons travailler de façon plus étroite, notamment lorsque nous travaillons dans le même pays, avec, par exemple en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, où nous avons travaillé avec les mêmes partenaires. La présence de l'OTAN en Irak, idem, car l'Union européenne est également en train de renforcer sa présence en Irak. Donc toute coordination de nos présences dans ces pays va renforcer nos efforts conjoints pour lutter contre le terrorisme. Les cyberattaques et les menaces hybrides sont partiellement pertinentes pour essayer de renforcer notre résilience contre des menaces potentielles provenant de terroristes. Alors, concernant le système de défense antimissile balistique de l'OTAN est quelque chose que nous avons, sur lequel nous avons pris des décisions il y a quelques années. Ça vise à protéger les alliés de l'OTAN provenant en dehors de la zone euro-atlantique. Et nous avons développé ce système en fonction de plans que nous avons adoptés il y a plusieurs années. Donc ce n'est pas quelque chose qui est affecté par les récentes évolutions en Corée du Nord.
My name is
Ratko Femic de Serbie. Vous avez parlé de la politique de la porte ouverte de l'OTAN. Et vous avez déjà pu vous entretenir avec notre président, Alexandre Vučić. L'ancien secrétaire général avait rencontré notre premier ministre et notre président. Alors, j'aurais voulu savoir s'il y avait des discussions quant à une adhésion de la Serbie à l'OTAN. D'autre part, est-ce qu'il y a des difficultés par rapport au centre humanitaire en Serbie? On a entendu dire que ce centre pouvait éventuellement être transformé en base militaire. Voilà la question. Réponse? Alors non, il n'y a pas de discussion quant à une adhésion de la Serbie. Et la raison à cela, c'est que la Serbie a été très claire. La Serbie ne souhaite pas devenir membre de l'OTAN. Et l'OTAN respecte pleinement cette décision qui incombe à la Serbie. La Serbie a décidé de rester un pays neutre. La Serbie souhaite devenir membre de l'Union européenne. Nous respectons ses choix et nous saluons les efforts réalisés pour essayer d'adhérer à l'Union européenne. Et en même temps, la Serbie est un pays indépendant, souverain, et la Serbie a décidé que devenir membre de l'OTAN n'était pas un objectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'OTAN, il est tout à fait possible d'avoir une bonne relation, un bon partenariat basé sur l'amitié avec un pays qui ne cherche pas, qui ne vise pas à devenir membre de l'OTAN. Nous avons une excellente coopération avec des pays tels que la Suède, la Finlande, l'Autriche et d'autres pays neutres encore. Donc, nous saluons ce partenariat. Je me suis entretenu plusieurs fois avec le président Vučić, qui est venu ici à l'OTAN récemment. Donc, on va parler de tout cela. Et c'est à la Serbie de décider ce qu'il en est de ce centre humanitaire de la Russie. Je sais que la Serbie réalise des exercices militaires avec la Russie, mais c'est également le cas avec des troupes OTAN. Donc, nous respectons les choix de ce pays, qui est un pays souverain, et nous saluons le partenariat étroit qui nous unit. Onyan. Merci. Irina Sommer, agence de presse ukrainienne. Il va y avoir une réunion de la commission OTAN-Géorgie. Comment se fait-il qu'il n'y aura pas de réunion de la commission OTAN-Ukraine? Cela veut-il dire que l'on ne suit plus ce qui se passe en Ukraine? Et puis, une deuxième question. Récemment, vous vous êtes entretenu avec le président Poroshenko et nous avons reçu très peu d'informations à ce sujet. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les thèmes qui ont été abordés? Merci. Réponse. J'ai eu un très bon entretien avec le président Poroshenko la semaine dernière. Il est venu chez moi, en fait. Et nous avons eu un échange fructueux au sujet des défis auxquels l'Ukraine est confrontée. On a parlé des efforts russes qui se poursuivent pour déstabiliser le pays, et en particulier la partie orientale de celui-ci. J'ai également rappelé mon soutien fort par rapport à la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays. Nous allons continuer à fournir un soutien tant politique que pratique à ce pays. Et le Conseil de l'Atlantique Nord s'est récemment rendu à Kiev, en Ukraine. Il y a eu une réunion de la Commission OTAN Ukraine à Kiev. Il y a bon nombre de réunions à différents niveaux. Il y aura une réunion de la Commission OTAN Ukraine prochainement, ici même, au siège de l'OTAN. Donc, il y a un dialogue permanent qui est en cours avec ce pays, avec lequel nous avons un partenariat étroit. Nous fournissons à l'OTAN un soutien à l'Ukraine dans bon nombre de domaines, en matière d'entraînement, en matière de commandement et contrôle, en matière de cyber, en matière de réforme du secteur de la défense ou encore en matière de lutte contre le terrorisme. Donc nous avons une étroite collaboration avec ce pays. Nous allons continuer à la renforcer. Agence France-Presse. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. L'Ukraine a l'idée d'organiser un référendum pour modifier la loi pour pouvoir envisager de devenir membre de l'OTAN. Et il y a également ce repas où on va parler de la politique de la porte ouverte. Est-ce qu'il y a un calendrier par rapport à cela? Récemment, votre collègue Jean-Claude Juncker a dit que la Serbie et le Monténégro devraient devenir membres de l'Union européenne d'ici 2025. Est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces comparables de la part de l'OTAN au cours des prochains jours, ou en tout cas d'ici le sommet? Réponse. Eh bien, c'est à l'Ukraine de voir si on souhaite devenir membre de l'organisation de l'OTAN. Et que cela se fasse par le biais d'un référendum ou par d'autres moyens, c'est une décision qui incombe aux Ukrainiens. Ensuite, savoir s'il va y avoir un élargissement de l'OTAN, s'il va y avoir plus de membres à l'OTAN, c'est quelque chose qui ne relève pas que du pays candidat. C'est également une décision qui incombe aux 29 alliés. Et c'est une décision qui se prend au consensus. Alors, ce que l'on a pu voir par rapport à l'élargissement vis-à-vis du Monténégro cette année, cela montre bien que la porte de l'OTAN reste ouverte pour les pays qui souhaitent devenir membres lorsqu'il y a donc un pays candidat et un accord de la part des 29 alliés. Un point qui est important et que je salue, c'est que l'Ukraine met l'accent sur la réforme. Parce qu'indépendamment de la question de l'adhésion, la réforme du secteur de la défense, du secteur de la sécurité, la modernisation des forces armées, la coopération pratique qui peut exister entre l'OTAN et l'Ukraine, c'est important en soi. Ça va renforcer l'Ukraine, ça va rendre l'Ukraine plus résiliente, et c'est quelque chose qui, donc, a toute son importance, indépendamment de la question l'adhésion et c'est pour cela qu'on va continuer à soutenir et appeler nos voeux ce type de réforme.
Philip Lodes, NRK. Alors, concernant la Corée du Nord, comment évaluez-vous la situation avec les exercices, dans le cadre, notamment dans le cadre des exercices conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis? Et deuxièmement, est-ce que vous estimez que le secrétaire d'État Rex Tillerson a pu calmer le jeu dans le cadre de l'administration américaine concernant la situation en Corée du Nord? Ces exercices font partie de la dissuasion et envoient le message que les États-Unis sont présents dans la région. Les États-Unis ont les capacités et la détermination pour défendre leurs alliés et ces exercices visent ou ont à nouveau démontré leur importance car ils envoient un message de détermination des États-Unis et de ses partenaires de la région et en démontrant que justement qu'ils ont les capacités pour répondre à toute attaque. Ce que fait l'OTAN, c'est que nous envoyons le même message, nous envoyons un message de dissuasion, de détermination, nous sommes prêts et disposés à répondre à toute attaque contre tout allié de l'OTAN et nous travaillons aussi avec la Corée du Sud et le Japon. Je me suis récemment rendu dans la région pour voir comment nous pouvons renforcer notre partenariat avec les pays de la région et nous soutenons également les efforts de la communauté internationale pour mettre une pression maximale sur la Corée du Nord, notamment par le biais de sanctions, pour parvenir à une solution pacifique. Car il faut comprendre qu'une guerre dans la région serait absolument catastrophique. Le secrétaire d'État Tillerson a joué un rôle essentiel, à la fois en envoyant un message de dissuasion, d'unité, de détermination de l'Alliance, mais aussi en insistant sur la nécessité de continuer à travailler sur une solution pacifique. Et pour moi, il n'y a pas de contradiction entre dissuasion, défense et le travail pour essayer de parvenir à une solution pacifique. En fait, le fait que nous ayons justement une dissuasion forte, que nous disposions de ces capacités militaires, cela fournit justement le cadre pour permettre de trouver une éventuelle solution politique. Une question de Kabul Times. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Il y a quelques jours, le général John Nicholson a dit que le Taliban avait trois options. Ou bien ils vont rejoindre le processus de paix, ou bien ils vont être tués, ou bien ils vont être obligés de battre en retraite. Quelle est la réponse, votre réponse à cette déclaration? Est-ce que vous soutenez cet exposé en trois points qui a été fait? Je soutiens la réponse des États-Unis et de l'OTAN que nous avons exprimée ensemble, à savoir la nécessité de renforcer notre présence sur place pour avoir plus de formateurs sur place pour davantage former les forces afghanes pour briser justement cette impasse et permettre aux forces afghanes de conquérir davantage de territoire et d'envoyer un message aux talibans et aux terroristes qu'ils ne pourront pas remporter la bataille sur le terrain et qu'ils devront donc à terme s'asseoir autour de la table de négociation pour trouver une solution négociée. Donc nous voyons ainsi le lien entre la force militaire et la capacité à parvenir à une solution pacifique. La situation en Afghanistan est certes difficile. Nous voyons qu'il y a beaucoup de violences, des attaques terroristes. Les forces afghanes ont eu à déplorer beaucoup de blessés, de victimes. Mais néanmoins, nous avons vu des progrès. Nous avons pu voir que cette année, les talibans n'ont pas pu prendre le contrôle d'aucune capitale de province alors qu'il s'agissait d'un de leurs objectifs stratégiques déclarés. Et nous avons également pu constater que les forces nationales de sécurité afghanes ont pu répondre à chaque fois qu'il y a une attaque des talibans et des insurgés.
Merci beaucoup. Voilà qui conclut ce point presse. Évidemment, il sera possible de poser d'autres questions demain. et mercredi. Merci beaucoup. Bonne journée.